France Inter.
Radio Star Berlin.
It's morning edition from NPR News. Radio Star
Berlin.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Esse.
Un jour dans le monde, c'est un jour en Chine ce soir.
Le peuple n'est pas coupable. La révolution est justifiée. Le peuple n'est pas coupable. La révolution.
Je vais vous expliquer dans un instant ce qu'il y a derrière ce slogan lancinant, carrément effrayant même, j'ai envie de dire. Nous sommes pendant la révolution culturelle en Chine, dans l'histoire de Xi Jinping, ça a vraiment du sens. Bonsoir Dominique André.
Bonsoir Fabienne.
On est heureux de vous avoir avec nous. Dominique, vous êtes grand reporter à la rédaction internationale de France Inter. Vous signez un podcast qui sort ce mardi, 9 épisodes, travail très en longueur, pour raconter l'histoire de cet homme, Xi Jinping, derrière le président qu'il est, l'histoire de son ascension fulgurante, d'une ambition qui est très clair dès le début. On va voir comment elle se manifeste et puis surtout comment il réécrit à la fois l'histoire de son pays mais aussi la sienne, en fait, ce Xi Jinping. Et c'est pour ça que je voulais commencer si tôt et au début. D'abord, le podcast s'appelle Le Prince Rouge. Vous nous expliquez, Dominique, ce que ça veut dire, le Prince Rouge?
Alors, être Prince Rouge en Chine, c'est extrêmement prestigieux parce que ça veut dire que vous êtes le fils de l'un des fondateurs de la République populaire de Chine. Donc, Xi Jinping est le fils de Xi Zhongxun, si c'est le nom de famille, qui était un compagnon de route de Mao Tse-tung, qui a participé à la longue marche et qui a participé à cette guerre civile qui a amené les communistes au pouvoir en 1949.
Et donc il est né en 53, Xi Jinping, effectivement, révolution en 49. Mais donc ce que ça veut dire, et il faut le rappeler, c'est que tous ces fils et filles de hauts dignitaires sont élevés dans la soie et sont élevés à part, en fait, complètement à part.
Oui, parce qu'en fait, ces princes rouges, ils sont assez nombreux en Chine. Ils forment vraiment une caste,
on
peut dire, l'aristocratie rouge. En fait, Xi Jinping, lui, a été élevé, comme pas mal de princes rouges, à Zhongnanrai, qui est le quartier gouvernemental, attenant à la cité interdite des empereurs de Chine. Et donc, derrière les murs hermétiques de cette nouvelle cité interdite, ils ont vécu de façon très privilégiée. Ils avaient accès à des distractions, ils avaient accès à une nourriture qui n'était pas celle du peuple. Ils vivaient extrêmement à part et effectivement étaient très privilégiés.
Et comme vous dites, distractions que d'autres n'ont pas. Moi, j'étais très étonnée d'entendre qu'il y avait des balles toutes les semaines, par exemple, en écoutant votre podcast. Et que ça m'a paru même tellement étonnant.
Parce que, en fait, derrière ces murs qui les protégeaient de la population, oui, il y avait une vie entière, puisque cette aristocratie rouge vivait de manière très, très autonome. Et ils étaient vraiment coupés du peuple. Donc Mao Tse-tung avait une piscine, il y avait des balles. Les enfants, comme Xi Jinping, allaient dans des écoles spéciales. Notamment, lui allait à l'école du 1er août, où ont été éduqués les enfants de l'élite rouge.
Et si j'avais vraiment envie qu'on insiste là-dessus, Dominique, pour démarrer et bien comprendre, c'est parce que quand on est élevé là, et quand on est ce prince rouge-là, ça veut dire que on est élevé dans l'idée que nous sommes les successeurs. Et que après la génération en place, ce sera nous, de toute façon, qui prendrons le pouvoir en Chine. C'est très clair, et y compris quand on est très très jeune dans cet endroit-là.
Oui, parce qu'il faut comprendre que quand on vit effectivement à Zhongnanrai, donc dans ce quartier gouvernemental, finalement, on vit avec le gouvernement chinois de l'époque. Xi Jinping, grâce à son père Xi Zhongxun, a connu Mao Tse-tung, a connu vraiment tous ceux qui ont participé à la fondation de la République populaire de Chine, donc à la Chine communiste. Donc en fait, effectivement, ils sont élevés dans l'idée qu'ils sont les fils d'eux, et que finalement, ils sont les seuls à pouvoir savoir ce qu'est la Chine communiste et comment transmettre les valeurs du Parti communiste. Ils estiment que ce sont les seuls qui puissent effectivement être aux commandes de cette Chine rouge, parce qu'ils en sont finalement les enfants.
Et alors, c'est effectivement dans cet esprit qu'a été élevé Xi Jinping. Et puis dans son histoire, il a eu l'occasion déjà de le dire entre les lignes. C'est des choses que l'on connaît en tout cas. Dans son histoire, il y a le grand bond en avant, l'échec du grand bond en avant, et puis le début de la révolution culturelle. Il part, le père de Xi Jinping, et donc lui avec, dans cette immense marée de la révolution culturelle. Et là, il faut dénoncer ses parents, son père, dénoncer sa sœur qui finira par se suicider. C'est ça aussi l'histoire de Xi Jinping, et qu'il faut rappeler, Dominique.
Oui, parce que Xi Jinping, effectivement, a eu, comme vous le disiez, une enfance dorée à Zhongnanrai, mais finalement, cette période dans sa vie n'a pas été si long que ça. À partir de l'âge de 9 ans, on peut dire que la vie de Xi Jinping commence à basculer.
Parce que le grand bond en avant, c'est 58, et en l'échec fait, du grand bond en avant...
59. Voilà. À partir de 59, en fait, si vous voulez, effectivement, à Zhongnanrai, il y a quand même pas mal de grabuges, parce que autour de Mao Tse-tung, il y a une contestation des gens qui lui en veulent de cet échec cuisant du grand bond en avant qui a entraîné, comme on sait, une famine avec peut-être... plusieurs dizaines de millions de morts. Les historiens parlent de 40 millions de morts hein, après le, avec, au moment du grand bond en avant. Donc en fait, Xi Jinping, à ce moment-là, étant le fils de Qin Gongsun, se sent lui aussi victime de ce qui va être mis en place par Mao Tse-tung, qui va se séparer d'une partie de ses adjoints, on peut dire de sa cour, qui conteste effectivement l'échec du grand bond en avant. Et Mao Tse-tung, qui se sent un peu en retrait, presque isolé, va essayer de renverser la table, de reprendre la main en engageant cette révolution culturelle qui va marquer vraiment un moment très difficile, une rupture dans l'enfance dorée de Xi Jinping. Sa vie va basculer à partir de la révolution culturelle.
Il sera envoyé, comme beaucoup d'entre lui, à la campagne dans ce qu'on appelle la Terre jaune et il en reparlera bien après, bien plus tard, vous avez retrouvé qu'on entend dans votre podcast une interview à la télé chinoise qui date de 2004. Quand je dis bien plus tard, il y en a très très peu des extraits de Xi Jinping. C'est quelqu'un qui a été très avare en parole. Il n'est pas encore à la tête de son pays, évidemment, en 2004. Et il parle de ce qu'il a vécu et de ce qu'il a fait à ce moment-là dans cette terre jaune. Écoutez-le.
La première fois qu'on est arrivé, en regardant ces maisons dans des grottes au milieu de la montagne, avec ces lampes à kérosène qui clignotaient, vous savez ce que j'ai dit à mes camarades ? J'ai dit, vous ne trouvez pas qu'on ressemble à des hommes des cavernes ? C'était très inapproprié. Mais c'est dans cet environnement que nous avons vécu pendant 7 ans. Au début, on avait peur de ces villageois qui s'installaient sur nos couchettes. Ensuite, on leur proposait de dormir avec nous. Il y avait 4 ou 5 jeunes qui vivaient dans ma maison avec moi. Le soir, après le dîner, eux et d'autres villageois venaient chez moi les uns après les autres pour m'entendre parler du passé et du présent. Je connaissais beaucoup de choses et ils voulaient que je leur raconte. À quoi ressemble Pékin ? Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis ? Ils étaient très curieux.
Et la raison, Dominique André, pour laquelle j'ai voulu qu'on écoute cet extrait, c'est que c'est là, au fond, c'est à partir de ce moment qu'il forge sa narrative, Xi Jinping, et qu'il fabrique même sa propre histoire pour que cette histoire soit adaptée à l'ambition qui est la sienne.
Alors, tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous. Ce qui est quand même important, je pense, il faut le souligner, c'est que Xi Jinping a 15 ans quand il est envoyé à la campagne, à plus de 1000 kilomètres de sa famille. C'est un ado qui part avec un groupe de jeunes citadins, de jeunes instruits de Pékin, et qui se retrouve dans une campagne très pauvre. Il va vivre dans une grotte, puisque c'est le type d'habitat dans cette région. Donc en fait, on peut dire quand même que là, il décroche quand même beaucoup. Effectivement, il aurait pu sombrer à ce moment-là, comme ça a été le cas, effectivement, pour sa sœur qui, dit-on, s'est suicidée au moment de la révolution culturelle. Et Xi Jinping va rebondir, et c'est là, dans les terres jaunes du Shanxi, effectivement, qu'il va se forger une personnalité. Et d'ailleurs, on le sent très bien quand on retrace tout son parcours. Xi Jinping est un adolescent quand il part à la campagne sur les terres du Shanxi. Et quand il en ressort 7 ans plus tard, c'est une autre personne.
Et c'est ça,
il est transformé.
Et c'est ça qui est étonnant dans ce personnage quand on le connaît aujourd'hui. Parce que, et c'est d'ailleurs l'un de vos interlocuteurs qui le dit, il aurait dû être dissident, Xi Jinping, après ce qu'il a vécu pendant la révolution culturelle, lui et sa famille. Il aurait dû partir aux États-Unis, avoir une autre vie. Au lieu de ça, il décide de rentrer à l'intérieur d'un système qui lui a fait mal. Il veut rentrer au Parti communiste. Vous racontez qu'il fait 10 demandes d'adhésion, il n'y a que la 10e qui marche. Pourquoi, à votre avis, et qu'est-ce qu'il y a derrière cet homme qui dit « je vais rentrer et je vais vaincre au fond ce système qui m'a fait tant de mal ?»
C'est le sinologue et politologue Jean-Philippe Béja qui nous raconte ça. C'est absolument passionnant, effectivement, cette interview de Jean-Philippe Béja. Xi Jinping, effectivement, à ce moment-là, aurait très bien pu rejeter le Parti communiste, qui finalement, qui est le parti qui a rejeté sa famille et qui lui a fait du mal. Et effectivement, Xi Jinping, qu'est-ce qu'il se dit à ce moment-là ? On n'est pas dans sa tête. Mais effectivement, ce serait intéressant qu'un psychologue se penche effectivement sur cette décision. Peut-être que Xi Jinping s'est dit à ce moment-là, pour pouvoir gérer ma vie, pour pouvoir mener ma carrière, pour pouvoir décider de mon destin, est-ce qu'il ne faudrait pas que, à mon tour, et contrairement à mon père, ce soit moi qui prenne les décisions? Et comment prendre des décisions en Chine? Comment être le plus fort? C'est bien en rentrant au Parti communiste et en gravant les marches du Parti communiste, en gravissant les marches du Parti communiste peu à peu, comme il va le faire pendant, vous avez vu, de nombreuses années.
Pendant de nombreuses années, et vous le racontez très bien en étant extrêmement discret, donc on fait pas de bruit, on dit pas ce qu'on pense. Au moment où la Chine s'ouvre un peu sous Deng Xiaoping, on sait pas s'il est contre ou s'il est pour. Au moment de la répression à Tiananmen, là non plus, on sait pas s'il est contre ou s'il est court. Comme ça, personne ne peut rien dire sur lui. Il y a ce moment que j'ai voulu retenir aussi et que je trouve vraiment intéressant, c'est un nouvel extrait de votre podcast. Nous sommes aux États-Unis. Sous Barack Obama, il est en visite, il ne dirige pas encore la Chine, mais il vient voir une famille qu'il avait déjà vue dans l'Iowa, puisqu'il avait déjà été une fois aux États-Unis lorsqu'il avait 31 ans. Voici comment se passe la nouvelle rencontre.
Ce sont mes hôtes. Je me souviens que j'avais dormi dans la chambre de votre fils. Et je me souviens aussi que vous aviez une adorable fille. Elle m'avait posé beaucoup de questions. As-tu déjà vu des films américains? Quand je lui ai dit que j'avais vu Meryl Streep dans The Deer Hunter, Voyage au bout de l'enfer, et le film Le Parrain, elle a été très surprise et m'avait répondu: tu as regardé tellement de films américains. Je me souviens aussi que vous aviez préparé des petits déjeuners très copieux, tout en nous disant que vous n'aviez pas l'intention de nous faire grossir. Avant notre départ, vous nous avez offert des pop-corn. Tous ces souvenirs me reviennent. Vous êtes les premiers Américains que j'ai rencontrés. Donc mes premières impressions de l'Amérique, c'est à vous que je les dois. Alors pour moi, vous êtes l'Amérique.
Très très rapidement, Dominique André, parce que je veux rien dévoiler non plus trop profondément de ce que vous nous racontez pendant 9 épisodes, mais enfin, moi je suis tombée de ma chaise, j'ai quand même appris qu'il avait une fille à Harvard, Xi Jinping, qui était protégée à la fois par les services chinois et les services américains, ce qui est quand même un comble.
Qu'il a été, parce qu'elle est rentrée à Pékin, oui, mais effectivement, elle est étudiante aux États-Unis. Alors moi, ce que j'ai aussi découvert en Chine, c'est que les enfants de cette élite rouge, les enfants finalement des princes rouges, vont souvent faire leurs études aux États-Unis. Les dirigeants chinois sont fascinés par les États-Unis, tout en les rejetant.
La montée de Xi Jinping, ce qu'il est devenu après, comment il accède au pouvoir et ce qui se passe derrière, tout ça en 9 épisodes disponibles à partir de maintenant. Dominique, il y a deux choses que je voudrais dire. D'abord, il y a une visite d'État du président chinois, ça commence lundi prochain, lundi, mardi, ici en France. Et puis, dans votre travail, il y a aussi un co-auteur, il s'appelle Romain Weber et on le salue. Il y a un rédacteur en chef, il s'appelle Sébastien Eugénie. Il y a un réalisateur qui est derrière la vitre, on lui fait coucou comme ça avec la main. Il s'appelle Fabrice Laigle. Il y a une assistante à la réalisation qui s'appelle Karen Day. Il y a deux réalisateurs additionnels qui ont participé aux épisodes qui s'appellent Charles de Silla et Fanny Boyon. Et on les remercie, on vous remercie aussi chaleureusement. Dominique André, merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Synthèse. Sur France Inter.
Ensuite, ça se passe au Kurdistan irakien. Le PKK dans le nord du Kurdistan croit à une offensive turque dans l'été. Et le PKK a ouvert son territoire à Théo Renaudot, qui nous racontera pour aller jusqu'à 19h. Kevin Dufraîche, sous les radars.
En Autriche, avec une enquête pour corruption en pleine campagne pour les législatives contre le favori des sondages.
Le Monde à 18h50, c'est vous, Franck Madvon. Bonsoir, Franck.
Bonsoir, Fabienne. Bonsoir à tous. On va s'intéresser au combat des Géorgiens, les Géorgiens du Caucase, hein, je précise, contre une loi sur les agents de l'étranger qui menacent de restreindre grandement leur liberté.
Et Caroline au Pays des 27 avec Caroline Gillet.
Bonsoir. Oui, alors que les étudiants occupent des facs pour exiger le cessez-le-feu à Gaza, des fonctionnaires européens, le saviez-vous, pourtant soumis aux droits de réserve, protestent aussi chaque jeudi depuis décembre devant le Conseil et la Commission à Bruxelles.
Allez, à tout de suite. Tout le monde, le tour de la planète continue. Il passe par le Cameroun avec Blik Bassi Mbundi, c'est le titre. Thank you. Nous sommes au Kurdistan irakien ce soir dans le reportage d'Un jour dans le monde. Son animosité, pour ne pas dire plus, avec la Turquie n'est pas une nouveauté, mais cette fois, la crainte, c'est bien que la Turquie envahisse le nord de ce Kurdistan d'ici à l'été. Ankara veut créer une zone tampon le long de sa frontière pour éliminer les positions du PKK dans la zone montagneuse. La crainte est bien réelle. Le PKK se prépare à une offensive et le reste, c'est Théo Renaudot qui raconte.
Ici Kandil, montagne sanctuaire du PKK, c'est un peu leur QG. Aujourd'hui, 2000 combattants et sympathisants célèbrent le nouvel an kurde. Chants, slogans et discours politiques résonnent. C'est une fête en zone de guerre. Les bombardements turcs sont quotidiens. Est-ce qu'il y a des risques, selon vous, à être ici ? Est-ce que les gens qui font la fête ici, à Kandil, prennent des risques ?
Bien sûr qu'il y a des risques à être ici. La Turquie ne perd aucune opportunité de tuer des membres du PKK ou des civils.
Dire 28 ans, c'est un combattant du PKK.
Si ça se trouve, elle peut même frapper cette cérémonie. Ce midi encore, il y avait des drones turcs au-dessus de Kandil. Elle utilise des armes chimiques, c'est pourtant interdit, rien ne l'arrête.
Depuis des mois, la Turquie intensifie ces bombardements sur les positions PKK du nord de l'Irak. Tous attendent maintenant de pied ferme l'offensive terrestre, comme ces deux guerriers ros.
Récemment, on a mis au point une arme anti-drone. On en a abattu 15 ces derniers jours. On a aussi des grottes pour nous protéger.
Et ça serait quoi les atouts du PKK face à la Turquie ?
Les membres du PKK ont grandi dans ces montagnes. On connaît bien la région, c'est pratique pour tendre des embuscades. Quand les soldats turcs arrivent, nous, on les attend. On a nos tunnels, notre connaissance des montagnes. La Turquie n'arrivera pas à prendre Kandil. Ce pays essaye depuis 40 ans, mais n'a jamais réussi.
Cette fois-ci, ça pourrait peut-être se passer différemment. La Turquie dispose du soutien apparent du gouvernement kurde irakien et de l'Irak fédéral.
Qu'ils essayent, qu'on rigole.
Madina est une mère de famille, sa sœur et sa fille ont été tuées dans la guérilla contre la Turquie.
L'Irak, la Turquie, le gouvernement kurde irakien, n'importe qui. Personne ne peut défaire le PKK et prendre nos montagnes. Kandil, Zab ou Matin, dans leurs rêves, ouais.
Une offensive turque qui est donc ici prise au sérieux, mais qui n'a pas pour but d'éradiquer le PKK des montagnes kurdes irakiennes, selon le chercheur en sciences politiques Arthur Kenney, spécialiste de la question.
Le PKK ne peut pas être éradiqué militairement. La principale base du PKK, les monts Kandil, mais également d'autres possessions, tout cela, les Turcs ne peuvent absolument pas se lancer à l'assaut de ces territoires. L'armée turque est au maximum de son déploiement militaire et toutes les batailles que lancera l'armée turque seront des batailles coûteuses en vie. Les Turcs le savent, c'est pour cela que l'offensive risque d'être mine de rien limitée aux Mongara.
Et concrètement, les Mongara, qu'est-ce que ça représente ?
Une immense zone montagneuse, mais qui est bien contrôlée par le PKK. Or, le PKK, depuis ses bases du Mongara, mène des offensives et des attaques contre les patrouilles turques, contre les bases militaires turques installées au Kurdistan irakien. Et si la Turquie veut se maintenir avec un coût en vie humaine relativement réduit, elle doit attaquer le PKK, les bases du PKK, et réduire la puissance militaire du mouvement.
Offensive sur le PKK évoquée cette semaine par le président turc Recep Tayyip Erdogan lors d'une visite en Irak, la première depuis 13 ans.
Théo Renaudon pour le reportage. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche.
Five, six, seven, eight.
Et Kevin, c'est d'abord en Australie que vous nous emmenez, l'Australie qui a connu de grandes manifestations ce week-end.
Oui, pour dire assez, pour dire stop aux violences faites aux femmes. 27 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année, une tous les 4 jours. Et puis l'Australie a été marquée aussi par le meurtre de 5 femmes poignardées par un homme dans un centre commercial de Sydney. C'était début avril, d'où ces dizaines de milliers de personnes qui ont défilé dans les rues de Melbourne, Sydney ou encore Canberra, la capitale où le Premier ministre travailliste Anthony Albanese s'est joint au cortège, essuyant alors quelques huées avant de prendre la parole quelques heures plus tard. C'est une crise nationale, dit-il, appelant à un changement culturel à tous les niveaux de la société. Nous devons faire plus. L'empathie ne suffit pas, assure le Premier ministre, désormais attendu au tournant sur ce sujet. Il a promis des changements dans la loi.
Et nous voici en Autriche, où une enquête est ouverte en pleine campagne pour les législatives.
Et elle vise les favoris des sondages. Plusieurs cadres du FPÖ, le parti d'extrême droite, dont son chef de file Herbert Kickl, des hommes qui ont été au pouvoir entre 2017 et 2019, hein, période durant laquelle le FPÖ formait une coalition avec les conservateurs. Et c'est justement sur ces années que des faits leur sont reprochés. Herbert Kickl est soupçonné d'abus d'influence, parce que lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, il aurait commandé des encarts publicitaires à un grand groupe de presse aux frais de la République d'Autriche, dit le parquet anticorruption de Vienne, le tout en échange d'une couverture médiatique favorable à son parti. Le FPÖ dénonce une accusation politique pour lui nuire. En pleine campagne, c'est déjà une affaire de corruption et de détournement de fonds publics, hein, qui avait eu raison de l'ex-chancelier conservateur Sébastien Kurz, qui avait démissionné en 2021.
Et puis nous sommes aux États-Unis, Kevin, avec une citronnade qui répare.
Oui, installer son petit stand devant la maison pour vendre des verres de citronnade et récolter ainsi un peu d'argent, c'est un classique, hein, américain. Mais là, Emory Johnson ne l'a pas fait pour partir en voyage scolaire. Non, elle l'a fait pour une toute autre raison, permettre à sa maman d'avoir une sépulture digne de ce nom en achetant une pierre tombale. Parce que sa mère, qui l'élevait seule, est morte brutalement le 13 mars dernier à 29 ans. Et la première fois qu'Emory se rend avec sa grand-mère au cimetière de Scottsboro en Alabama, eh bien elle constate que sa mère n'a le droit qu'à une petite plaque en métal. La famille n'a pas les moyens d'acheter une pierre. Alors le 1er avril, elle installe une table et vend de la citronnade toute seule, comme une grande, $1 le verre. La nouvelle fait le tour du quartier. Les gens donnent souvent alors bien plus, jusqu'à $300 pour un seul verre, explique fièrement Emory à la chaîne CBS. Elle a récolté ainsi plus de $15,000 en quelques jours et une entreprise locale de pompes funèbres a décidé d'offrir la pierre tombale. Emory, elle, se dit avec un grand sourire, très heureuse de voir qu'autant de gens aimaient sa maman.
Eh ben, écoutez, formidable, vous partez. Kevin, merci beaucoup et à demain avec la version de Limosis de la célébrissime chanson California Dreamin', rendue incontournable par les mamas and the papas.
All the leaves are brown, and the sky are green. I went for a walk, yes I did, on a winter day. Thank you.
Lee Moses de California Dreaming sur France Inter. Le Monde à 18h50 et Franck Madvon.
Fabienne Sintès.
Le 18-20. Franck, en Géorgie, le mouvement contre un projet de loi qui pourrait restreindre les libertés ne faiblit pas. Et ce soir, vous nous dites pourquoi le combat mené par les manifestants est aussi un combat pour l'Europe et contre Moscou.
Oui, voilà plus de deux semaines que les manifestants se mobilisent. Avant-hier, rassemblement massif à Tbilissi, la capitale de Géorgie. 20 000 personnes, c'est beaucoup dans ce pays de 4 millions d'habitants. Ce sont surtout des jeunes qui brandissent des drapeaux de l'Union européenne. Ils accusent le gouvernement de vouloir museler toutes les voix critiques, les journalistes, la société civile. Hier, le pouvoir a organisé un contre-rassemblement, des milliers de personnes pour défendre cette fois la loi en cause. Les médias qui couvraient l'événement ont vite constaté que des manifestants avaient été conduits sur place, notamment beaucoup de fonctionnaires. L'un d'eux témoigne auprès de l'AFP. Le maire de mon village m'a dit que je perdrais mon travail si je n'allais pas manifester.
Et alors, que dit précisément cette loi controversée ?
Alors, la loi vise à combattre l'influence étrangère. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle en Géorgie. Elle fait son retour, cette loi, après avoir été abandonnée il y a un an par le gouvernement sous la pression de la rue. Le texte oblige toute organisation, médias, ONG, dont au moins 20% du financement vient d'une source étrangère, à s'enregistrer comme servant les intérêts d'une puissance étrangère. En cas d'infraction, de lourdes amendes sont prévues. Le parti au pouvoir, le rêve géorgien, met en avant le besoin de transparence, mais pour les manifestants, aucun doute, l'objectif est d'étouffer l'opposition à 6 mois des élections législatives. Il compare le projet à la loi sur les agents de l'étranger votée en Russie. Moscou s'en est beaucoup servi, vous le savez, pour réduire au silence les voix critiques.
Et le vote d'une telle loi, Franck, serait un tournant pour la Géorgie.
Oui, ce pays du Caucase s'était éloigné de la Russie il y a une vingtaine d'années pour se tourner vers l'Occident. Un chemin choisi notamment par l'ancien président Saakachvili, aujourd'hui en prison. La Géorgie a obtenu en décembre le statut de pays candidat à l'Union européenne. C'est une aspiration pour 80% de la population, d'après les sondages. Mais la Russie exerce à nouveau une forte influence dans le pays. Le fondateur du parti au pouvoir, Bidzina Ivanichvili, dirige la Géorgie dans l'ombre. Il a justement fait fortune en Russie. Il est décrit comme paranoïaque et obsédé par l'Occident, un peu comme Poutine. Le gouvernement fait donc tout pour discréditer les manifestants, accusés d'être à la solde de puissances étrangères. Il parle d'un mouvement gay, ce qui est censé le disqualifier dans ce pays conservateur. Mais malgré des violences policières dénoncées par des ONG, les manifestants ne se laissent pas intimider et maintiennent la pression sur le pouvoir.
Et alors ce mouvement est suivi de très près évidemment en Russie comme en Occident.
Oui, pour les Européens, cette loi sur les agents de l'étranger est incompatible avec l'adhésion à l'UE. Ils y voient la main de Moscou et tout porte à croire en effet que le Kremlin est le marionnettiste du projet qui a déjà franchi une première étape au Parlement. Naturellement, Moscou dément toute ingérence et accuse les manifestants d'être des instruments de l'étranger. Les spécialistes en désinformation constatent que les pages Facebook pro-Kremlin évoquent même un putsch des États-Unis. Les manifestants géorgiens se battent autant pour leur liberté que contre ce récit russe.
Franck Madvon, à demain. Franck, merci beaucoup. Le mardi, on pousse les portes de l'Europe avec Caroline Gillet. C'est Caroline au pays des 27. Merci de frapper avant d'entrer.
France Inter. Le 18-20.
Courant d'air. Caroline, aujourd'hui nous sommes à Bruxelles, de retour à Bruxelles j'ai envie de dire, et alors que les étudiants et étudiantes continuent à se mobiliser pour Gaza aux États-Unis, en France aussi, il y a aussi des manifestations de fonctionnaires européens. Place Schuman.
Oui, et Fabienne, il y a quoi autour du rond-point Schuman ? On en a parlé il y a quelques semaines. On l'avait dit, il y avait
une
quoi comme institution ?
Il y en avait une des quatre.
Eh bien, pour vous aider, je savais que vous auriez oublié, j'ai enregistré les infos sur le tournage de cette chronique.
On est rond-point Schuman, il a plu, je suis assis sur un bord de banc où il n'y a pas trop de gouttes, il y a 3 militaires qui se dirigent vers le conseil, qui se trouve à ma droite. À gauche, il y a la Commission européenne, le bâtiment du Berlaymont. Plein de touristes aussi, qui avancent en filmant la Commission, en traversant, ils ne regardent pas.
J'attends Guillaume Fine, qui est fonctionnaire, qui travaille au service extérieur de l'UE. Il est chef d'unité adjoint pour l'Afrique. Il vient ici, sur ce rond-point, tous les jeudis, faire un sitting silencieux. On va en parler, mais d'abord, ce n'est pas anodin, je vais m'asseoir à la terrasse d'Exki, une chaîne belge de café-restauration rapide, saine et très chère. Il y en a plusieurs dans le quartier. Voilà le bruit que font les chaises. Et Guillaume est là, je lui demande.
Il y a des exquis très stratégiques autour des institutions. Il y en a un ici, et il y en a un autre qui est devant le Parlement.
Enfin, il y a tellement d'intérêt autour de ce rond-point.
Oui, non, c'est exactement ça. En fait, si vous installez dans l'un des exquis, vous apprenez plein de choses super intéressantes. Un petit peu comme quand à la photocopieuse, vous prenez des feuilles qui ont été oubliées et que là, vous apprenez des choses aussi intéressantes, souvent même plus intéressantes et plus utiles que dans les réunions formelles.
Les parents de Guillaume Fine étaient coopérants au Niger et au Togo dans les années 70. Lui a travaillé pour la coopération française en Jordanie pendant 2 ans, puis il a passé les concours d'ingénieur pour rentrer dans l'administration européenne. Il s'est occupé de développement des infrastructures de base pendant 2 ans au Tchad, 3 ans à Haïti et 3 ans à Jérusalem et Gaza.
Moi, j'ai beaucoup idéalisé en fait la coopération, ce qu'on apportait, l'aide au développement, etc. Et puis petit à petit, voilà, j'ai réalisé que voilà que les puissances jouaient aussi leurs intérêts géostratégiques et que du coup, avant de parler de coopération au développement, il faut d'abord ne pas nuire au développement de ces pays. Et j'ai trouvé que l'échelon européen était vraiment l'échelon qui était le plus important, en tout cas dans l'action, dans le cadrage des GAFAM, dans la transition énergétique. Voilà, tout ça, ce sont des choses sur lesquelles on peut vraiment agir au niveau européen.
Je lui demande à quoi ça ressemble de travailler pour la Commission au Maghreb.
Il y a des accords cadres, en fait, qui sont décidés entre chaque pays et l'Union européenne. Et en fait, on aide le pays à mettre en œuvre certaines politiques sectorielles. Donc, par exemple, en Tunisie, le dernier projet que j'ai suivi, c'était un projet où, en fait, les revenus du tourisme peuvent non pas repartir vers les grands groupes internationaux, mais peuvent profiter vraiment à l'économie locale.
C'est quoi l'échange, le donnant-donnant ?
Donc, il y a en fait ce que l'Union européenne apporte. Et puis, il y a évidemment ce pour lequel l'Union européenne est intéressée. Donc, ça va être la présence des entreprises ou des investissements européens, l'approvisionnement énergétique, ou par exemple, en aidant aussi les pays d'Afrique du Nord à se doter d'énergie renouvelable. Ce sont des pays qui pourront aussi exporter une partie de cette énergie renouvelable vers l'Union européenne. Donc, ça, c'est super intéressant.
C'est quoi ? Là, on entend vraiment l'hélicoptère qui tourne au-dessus de nous. Il y a des gens qui regardent dans l'immeuble, là, en vert, ce que peut être cet hélicoptère.
C'est une excuse. La réunion n'était pas intéressante. Donc, tout le monde va aux fenêtres dès qu'il y a un hélicoptère.
Moi, j'ai vu tout à l'heure 3 militaires aller vers le conseil. Donc, je ne sais pas s'il se passe un truc spécial aujourd'hui. J'aime bien faire mousser, faire sort blanc. Ça donne du crunch à cette chronique. Donc là, c'est rigolo parce qu'au-dessus de nous, il y a le diplomate en chef qui parle des relations extérieures, donc dans les bureaux au-dessus. Et là-bas, au Conseil, en vérité, c'est là que se prennent les décisions sur les actions extérieures. C'est là que se réunissent les chefs d'État.
C'est parfois un petit peu paradoxal parce qu'on est dans notre bureau à quelques dizaines de mètres. Et en fait, des grandes décisions se prennent à 300 mètres. On sait que les chefs d'État sont là et de gouvernement. On sait que des choses se définissent pour des années à ce rond-point, là où on est actuellement. Voilà, on attend de savoir en fait ce qui va être décidé. Un petit peu aussi quand il y a des grandes manifestations qui passent toujours la rue de la loi jusqu'au rond-point Schuman, qui sont organisées par des syndicats, par des groupes de jeunes, par des mouvements associatifs. Nous, on est dans notre bureau et on est parfois pas au courant du sujet pour lequel ils manifestent.
Mais Guillaume et ses collègues aussi sortent parfois manifester. Dernièrement, contre la position initiale de l'UE face à la situation à Gaza. On ne se rend pas compte de l'extérieur, mais des manifestations de fonctionnaires qui ont un droit de réserve, c'est très très rare. Depuis que Guillaume travaille là, c'est arrivé seulement 2 autres fois. Une fois pour le climat, et une autre pour protester contre la nomination de l'ancien président de la Commission européenne, après son mandat, un haut poste auprès de la banque privée d'investissement américaine Goldman Sachs.
On souhaiterait non qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat. On a circulé une lettre en interne. Une pétition qui a recueilli énormément de signatures de fonctionnaires européens qu'on a donné à notre présidente. Et depuis le mois de décembre, tous les jeudis, on organise un petit sit-in et on aimerait que notre institution puisse peser plus dans le scénario actuel.
Voilà, fonctionnaire la journée, sit-in le jeudi.
Voilà, c'est ça.
Caroline Gillet, merci
beaucoup. Merci beaucoup, Fabienne.
Et vous revenez mardi prochain, bien sûr, au Pays des 27. Le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h avec Hélène Filly. Juste après, il y a le téléphone sonne. Bonsoir, Philippe Lefébure.
Bonsoir à tous.
Ce soir, les recommandations officielles sur les écrans et les enfants entre limiter et interdire.
Les parents et les futurs parents vont retrouver ou découvrir les âges clés, 3 ans, 6 ans, 11 ans, jusqu'à 15 ans, la majorité numérique. Alors, c'est parti très fort sur WhatsApp. Scarlett, les enfants, les écrans, mais c'est une question de santé publique. Il faut légiférer vite, 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 Florence. et psychomotricienne en crèche. Le matin, je vois des enfants arriver en poussette devant l'écran du téléphone. Je m'inquiète du manque de stimulation pour ces petits. Pour autant, je comprends aussi les difficultés des parents soumis aux injonctions sociales et aux regards réprobateurs.
Eh bien, vous êtes chaud, c'est bien. 0145 24 7000. Nous serons avec les deux rapporteurs de ce rapport qui a été remis à Emmanuel Macron. Donc, vous pourrez leur poser toutes leurs questions, toutes vos questions. 0145 24 7000.
Et les miennes aussi, alors.
Tout ça, on remettra ça dans le bon sens tout à l'heure.